Investigation, Justine Katz.
Aujourd'hui, dans Investigation, on vous emmène dans le monde des administrateurs de biens. Ils sont désignés par un juge de paix pour gérer notre argent et notre patrimoine quand nous ne sommes plus capables de le faire nous-mêmes. Ce sont donc des hommes et des femmes de confiance censés protéger les plus vulnérables. Aujourd'hui, 120 000 personnes en Belgique sont placées sous la tutelle d'un administrateur de biens, soit un Belge sur 100. Mais certains administrateurs profitent de cette fragilité. Ils parviennent à détourner des sommes parfois colossales. Comment est-ce possible? Quelles sont les failles du système? Nous avons enquêté pendant plusieurs mois dans ce secteur de la justice qui manque de moyens et où les contrôles sont presque inexistants. Axel Vanhoenberg, vous êtes réalisateur à Investigation. Vous êtes l'un des auteurs de cette enquête. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué?
Ce qui m'a marqué dans cette enquête, c'est que beaucoup de gens ne connaissaient pas l'administration de biens ou de la personne. Autour de moi en particulier, moi-même j'avoue que je n'étais pas très au courant. Et puis, en m'intéressant petit à petit au sujet avec la journaliste Martine Ernst, on s'est rendu compte que, en fait, ce sont des mesures, l'administration de biens de la personne, ce sont des mesures pour protéger les plus fragiles. Et en même temps, ben voilà, cette mesure qui est a priori bienveillante, ben elle pose parfois des problèmes. Et c'est à ces problèmes-là qu'on a voulu s'intéresser, non pas pour nécessairement pointer uniquement ce qui n'allait pas, mais aussi pour mettre simplement les gens au courant et peut-être un peu aussi les mettre en garde.
On va écouter ça, administration de biens, un paradis pour les fraudeurs. C'est notre investigation du jour. Elle est signée Martine Ernst et Axel Vanhoenberg. Elle est revisitée dans ce reportage par Sylvie Chevalier et Brice Bourin.
Bonjour. Bonjour, venez.
Merci.
Alors, monsieur Lebrun, comment ça va?
Ça va.
À mon sens, tout évolue super bien.
Oui,
on est dans une belle énergie positive.
Je tenais moi-même.
Disons que le parcours entre janvier et aujourd'hui, l'automne, c'est énorme.
J'ose même pas y penser, parce que même si je remonte à trop loin d'ici...
C'est inespéré.
Ouais, ouais. Faut pas se cacher.
Il faut garder la même énergie, et en même temps, vous savez que... Le principe même du régime de protection, c'est de vous tirer vers le haut.
Mais
donc, s'il y a une difficulté, on en parle et moi, je m'adapte. Ouais. Donc, c'est vous qui mettez la cadence.
Ce jour-là, Thierry Lebrun reçoit chez lui son administratrice de biens. Derrière les mots sereinement échangés se cache une grande souffrance, mais aussi un beau combat.
J'ai fait un gros burn-out, donc il y a 6 ans maintenant.
Rien ne prédestinait ce Namurois à être placé, comme on dit, sous protection.
Je n'étais plus apte, je dois l'admettre maintenant, à être autonome, surtout d'un niveau social et financier. J'ai été trop loin dans mes dépenses, je vivais largement au-delà de mes moyens et je ne m'en rendais pas compte. Ça peut arriver vraiment à n'importe qui, ça va très vite, plus vite qu'on ne le pense. Moi-même, je connaissais déjà la définition de burn-out, etc. J'aurais jamais pensé en être victime. Ça peut vraiment arriver à n'importe qui.
Si ce témoignage me touche, c'est par la sincérité du propos, bien sûr, mais c'est aussi parce que je pensais qu'être placé sous tutelle n'arrivait qu'à certaines personnes plus âgées. J'étais loin du compte.
On va monter un petit peu plus haut dans l'ultrason aujourd'hui.
Thierry a 45 ans, il est kinésithérapeute. Depuis 6 mois, il a réussi à retravailler. Face à lui, ou plutôt à ses côtés, Annie Lejour doit faire preuve d'écoute et de discernement.
Ce véhicule, moi je pense à moyen terme, il faudra quand même vraiment envisager cet achat parce que bon, travailler des déplacements.
Mais c'est ça, je perds 3 heures. Enfin, pour, de Namur à la Louvière, en train, il me faut 1h30. En voiture, il me faut 40 minutes.
Oui, ça c'est quand même trop compliqué.
Je dois simplement faire attention à ce que je dépense, la justifier auprès d'elle, dire le pourquoi du comment et comment j'envisage, bien sûr.
Au niveau de votre argent de poche, vous pensez à quel montant, monsieur? Parce que ici pour le moment.
Par mois, j'irai 850, par semaine 200.
Oui.
Faut avouer que c'est pas très romantique comme situation. Il faut laisser tomber sa fierté, sa dignité, même quelquefois. Et il faut admettre qu'on n'est plus rien. Et donc, pour ça, il faut admettre de repartir de zéro pour réévoluer, quoi. Moi, c'est le mot, réévoluer. Mon rêve est d'être autonome. C'est pas un rêve si éloigné que ça, je pense. Mais d'un autre côté, ça me rassure que Maître Lejour soit là, personnellement.
Comme la grande majorité des administrateurs de biens en Belgique, Annie Lejour est avocate. Connaître la loi est un plus, mais pour administrer des biens, il faut visiblement aiguiser un côté couteau suisse.
Dans mon GSM, j'ai, à mon avis, 10 numéros de GSM de chauffagiste, plombier. Et alors, ben, le vendredi, 16h, il faut trouver quelqu'un et je vais rester, tenter de joindre quelqu'un et trouver une solution pour ne pas que ma personne soit sans chauffage tout le week-end. Et ça, c'est le quotidien des administrateurs de biens.
L'administration de biens, cela peut donc nous tomber dessus demain. Une maladie, un accident de la vie ou tout simplement vieillir et devenir incapable de gérer nos biens. Cela n'arrive pas qu'aux autres, car c'est interpellant. Un Belge sur 100 est concerné, et bien sûr ses proches également. Alors malheureusement, tout ne se passe pas toujours bien.
Quand je téléphone à ma maman me dit « Ah, tu sais, j'ai eu la visite de 3 personnes, mais gentilles. » Elle me dit « Tu sais, moi, je n'ai pas eu d'inquiétude. » Ah, ben, je dis « C'est bien, maman, tant mieux, c'est que, tu vois, on s'intéresse à toi. Ils ont fait peut-être une petite recherche, vu que ça fait 2 mois que tu es là. » Enfin, soit.
L'histoire de la maman de Maria m'intrigue. Elle était depuis peu arrivée dans un home bruxellois quand la direction de l'époque demande l'administration des biens et de la personne. Maria n'est absolument pas tenue au courant de la moindre démarche.
2 semaines par la suite, je reçois un courrier. Mais au moment même, je ne fais pas vraiment attention. Je ne connaissais pas ces termes, je ne voyais pas ce qu'on me voulait, la justice de paix. Donc, avec ce courrier, je me rends chez un ami à moi qui est avocat et qui me dit « Mais Marie, est-ce que tu as fait une demande de tutelle ?» Je dis non, absolument pas. Donc sur ce, je suis restée vraiment perplexe parce que je ne comprenais pas.
La première rencontre avec l'administrateur de biens de sa mère ne manquera d'ailleurs pas de saveur.
Et ce jour-là, je le vois arriver. Il y avait mon petit garçon, ma maman et moi. Et il ouvre la porte sans frapper. Il était mal tombé parce que j'étais là, j'étais toujours chez ma mère tous les jours. Et je le vois arriver, Madame Castronovo. Et là, naturellement, je lui dis « Vous faites quoi ici ?»« Je suis venue prendre des nouvelles de votre mère et vous dire que vous ne pouvez pas la prendre chez vous. »« Vous êtes qui ? Sortez. » »« Sortez, je dis, parce que là, je vous balance par la fenêtre. » Et j'étais dans un tel état que je pense qu'il a eu l'intelligence de le comprendre.
Cette pratique semble inhumaine. Je m'interroge. Est-il normal qu'un home demande qu'un de ses résidents soit placé sous administration de biens ? Qui peut d'ailleurs entamer une telle procédure ? La famille a-t-elle voix au chapitre ? Pour comprendre, je me glisse dans les pas d'un juge de paix.
Désolé de vous perturber, je suis aujourd'hui accompagné de la TBC.
J'étais prévenu de votre visite.
Vous pouvez peut-être.
Ce sont les juges de paix, comme Xavier Geyssen, qui décident toujours s'il y a lieu de placer une personne sous administration de biens.
Alors, madame est l'époux.
Il doit précisément, ce jour-là, trancher pour un résident d'un home liégeois. Il a convoqué la famille. C'est la loi.
Sa santé s'est dégradée, j'ai lu. Moi, je dois m'en rendre compte personnellement, c'est pour ça que je viens, mais je vois bien qu'il ne suit pas la conversation. Il peut rester avec nous, ou bien on peut le ramener dans sa chambre s'il n'est pas bien ici. C'est comme vous préférez. Toute personne qui estime que quelqu'un mérite une protection peut en faire la demande et il peut déposer une requête en ce sens et y joindre un rapport médical s'il en a un. S'il n'en a pas, on désignera un expert pour vérifier quel est l'état de santé de la personne à protéger.
L'information est perturbante. N'importe qui peut donc demander de mettre quelqu'un sous protection, même votre voisin. J'apprends que les maisons de repos, les hôpitaux en font souvent la demande pour garantir le paiement des factures. Mais heureusement, le juge de paix veille.
La désignation d'un administrateur à la demande d'une maison de repos n'est pas du tout un rituel immuable. Le juge de paix est toujours parfaitement libre d'y faire droit ou non.
C'est votre fils qui va signer et gérer à la place de votre mari.
La règle légale est que le juge de paix doit de préférence désigner un administrateur familial, c'est-à-dire un administrateur choisi dans l'entourage de la famille de la personne protégée. Et à défaut, un administrateur
professionnelle.
Alors, autour de la personne à protéger, on trouve un administrateur, un juge de paix dont on a parlé, mais aussi une personne de confiance, une sorte de garantie supplémentaire pour éviter les abus.
Et comme personne de confiance, je peux vous désigner vous et votre maman.
Bien sûr.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, madame, de tout ça ?
Je suis d'accord.
Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui.
Et cette personne de confiance peut donc interpeller l'administrateur et le juge de paix lorsque quelque chose, à ses yeux, se passe mal ou pose problème. Si la personne de confiance n'est pas écoutée, c'est une anomalie.
Maria, elle, n'a pas été prévenue du tout de la procédure. Le choix d'un administrateur familial n'a même pas été envisagé.
Moi et mes nièces, nous n'étions pas des personnes incapables de gérer ma maman. C'est un abus, voilà, je le vois comme un vol et un abus de pouvoir.
Ce témoignage et plusieurs autres d'ailleurs m'emmènent naturellement sur la piste des fraudeurs, des voleurs. Car ne soyons pas naïfs, si un Belge sur 100 est sous administration de biens, on comprend vite que les administrateurs brassent des millions d'euros. Une manne providentielle pour certains peu scrupuleux qui ont trouvé dans une loi faite pour nous protéger des failles. Maria n'oubliera jamais son désespoir au décès de sa mère quand elle découvre que l'avocat qui gérait les biens l'a visiblement spolié.
J'ai reçu des papiers avec ce qu'il restait. J'ai été choquée. J'ai vraiment été choquée. Car cet argent est parti et je ne sais pas où il est parti. Voilà.
Combien ?
Une histoire de 160 à 170 000 euros. Et lui, il disait que cet argent, c'était nous qui l'avions dépensé. Donc, de fil en aiguille, j'ai laissé tomber. Sans vraiment laisser tomber. Ce que je voudrais, rencontrer cette personne. Nous l'avons cherché, je l'ai cherché. Mais nous n'avons pas su avoir l'opportunité de pouvoir avoir un échange avec cette personne. Il a disparu.
Sur le chemin de cette enquête, d'autres personnes se disent victimes de ce même avocat bruxellois. Parmi elles, Laurence. Je comprends pourquoi elle tient à témoigner. Elle a mené un long combat pour son grand-père.
Mon grand-père, c'était mon pilier. Il faut savoir que mon grand-père m'a élevée et que j'ai vécu chez lui. C'est lui qui m'a payé l'université. Et on était deux. On était très fusionnels. Un administrateur de biens s'est avéré nécessaire parce que mon grand-père est rentré en maison de repos. Il ne pouvait plus vivre chez lui tout seul. Et la maison de repos m'a conseillé vivement d'officialiser mon rôle. Et donc, c'est moi qui ai été nommée à la base administratrice provisoire de ses biens. Et c'était très bien puisque je gérais quand même son argent et son patrimoine depuis des années. Et ça officialisait la chose. Donc j'avais vraiment l'impression d'être protégée comme on m'avait dit et qu'on officialisait ma fonction.
Mais un jour, Laurence veut faire des travaux dans la maison de son grand-père. Alors, pour éviter tout conflit d'intérêts, le juge de paix désigne un administrateur professionnel. C'est encore l'avocat bruxellois.
À partir de ce moment-là, nous avons un nouvel administrateur provisoire qui est rentré dans notre vie et qui, en quelques semaines, a tout fait pour m'évincer et prendre ma place. Et c'est ce qui est arrivé. Le nouvel administrateur provisoire, avec différentes techniques d'humiliation, comme si j'étais une menteuse ou une voleuse, enfin, évidemment, il y a de l'émotionnel dans ce que je vous dis, a convaincu la juge de paix de prendre totalement ma place. Je n'ai plus accès à rien. Et ce n'est qu'au décès de mon grand-père que j'ai été vérifier les comptes et que je me suis rendu compte, en fait, qu'il n'y avait plus d'argent. Zéro.
Ici, ce sont 80 000 euros qui se sont évaporés. Et c'est aussi un long combat devant la justice qui commence. Il durera 10 ans. Devant un tribunal civil, l'avocat fraudeur sera condamné à rembourser des prestations totalement inutiles. Il acceptera aussi de rendre 20 000 euros pour surfacturation de travaux. Du moins, c'est son assurance en responsabilité professionnelle qui paiera.
Mon grand-père est décédé et je dois avouer que je n'ai jamais osé lui dire tout ce qui s'est passé et je suis heureuse qu'il soit parti sans le savoir parce que s'il avait su que tout le travail de sa vie est parti dans les poches de quelqu'un, qui n'était pas honnête. Je crois qu'il aurait vraiment été mal pour sa petite fille qui est restée avec ça sur les épaules après son départ. Voilà, donc je suis très contente, moi, de l'avoir protégée de ça. J'espère que cette personne ne peut plus administrer d'autres biens d'autres personnes. En tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui doit être neutralisé. Ce n'est plus possible que cette personne puise dans le patrimoine d'autres personnes.
Ce qui me semble le plus irréel dans cette affaire, c'est de découvrir que cet avocat gérait seul plus de 300 dossiers. Alors, qu'est-il advenu de tous ces administrés ? En cherchant des réponses, on découvre que l'avocat a préféré se retirer du barreau, mais la justice de paix d'un canton bruxellois lui aurait encore confié 20 à 25 dossiers. Pour Annie Le Jour, certains ne manquent visiblement pas d'idées pour détourner de l'argent.
Le dernier cas en date, c'est une consoeur qui payait finalement 13 fois la maison de repos au lieu de 12 fois. Sauf que la 13e fois, c'était sur son compte. Ça passait au bleu. Mais ce qui est hallucinant, c'est que ça a duré des années. L'autre cas est encore différent, puisque là, ce qui a été révélé, c'était que l'avocat avait accès au compte épargne. Ça, c'est lunaire, hein, parce que je n'ai jamais eu, sur les centaines de dossiers que j'ai traités, d'ordonnances qui me permettaient d'avoir accès au compte épargne.
Les administrateurs ne doivent-ils rendre aucun compte ? N'y a-t-il aucun contrôle ? On retrouve Annie Le Jour dans ses bureaux de Charleroi. Elle rédige un document essentiel, son rapport financier sur la gestion d'un administré.
Ces rapports, c'est par définition l'obligation que j'ai une fois par an de rendre un rapport succinct de ma gestion avec les livres journaux du compte, donc les pièces bancaires. Et c'est la même obligation d'ailleurs que ce soit un avocat ou une personne de la famille.
Ces rapports annuels doivent être contrôlés par le juge de paix sur un mur entier du bureau de l'administratrice Défarde, qui contiennent autant d'histoires de vie.
Alors, dans chaque farde, en réalité, il y a les factures. Et chaque facture est à disposition d'ailleurs du juge de paix, si on me le demande, est référencée. C'est vraiment une gestion comptable, comme je le fais pour ma propre comptabilité, en réalité. Hein. C'est extrêmement simple, mais ça doit être bien tenu. Et la personne protégée peut me demander à tout moment de présenter cette comptabilité. Je sais la fournir, il n'y a aucun souci. C'est le principe de la gestion de biens. C'est-à-dire que je dois pouvoir avoir systématiquement une pièce comptable pour chaque écriture comptable.
Mais y a-t-il vraiment des contrôles précis ? La réponse est surprenante.
Je suis avocat depuis 1999. Je suis désignée très très vite après mon arrivée au barreau. Et je pense que j'ai géré 200 dossiers. J'ai eu un contrôle.
L'administrateur reçoit 3% des revenus de la personne protégée. Il facture également ses frais administratifs, les courriers qu'il adresse, les kilomètres qu'il parcourt. Un jour par semaine, Xavier Geysen, le juge de paix liégeois, contrôle les rapports de ses administrateurs. Les recettes pour tricher, il les connaît bien.
On peut avoir des prestations exagérées, puisque l'avocat a un fixe de 3%, mais s'il a des prestations exceptionnelles, il peut facturer des heures de prestations exceptionnelles supplémentaires. L'avocat peut aussi, dans certains cas, rédiger trop de courriers et de cette manière-là faire tourner la planche à billets en démultipliant le poste courrier.
Les fraudes peuvent aller jusqu'à la vente de biens à bas prix avec une enveloppe en dessous de table. Parfois, le prix du bien n'arrive jamais sur le compte de la personne protégée. Mais malheureusement, pour détecter les fraudes, le juge de paix manque de moyens et de temps.
Nous avons des ordinateurs obsolètes, un programme qui remonte à Mathusalem, qui est d'une lenteur épouvantable et qui ne permet pas facilement de faire des contrôles dans les chiffres et dans les informations bancaires. Maintenant, il faut être réaliste, j'ai 1700 dossiers d'administration, donc j'ai au moins 1700 rapports parents qui arrivent sur mon bureau. Je contrôle et j'essaye de le faire le mieux possible. Voilà.
Ce constat est glaçant. Une fois encore, par manque de moyens, la justice se montre bien impuissante face à de possibles fraudeurs. Alors, je garde en tête ce conseil précieux d'Annie Lejour. Chacun est libre de choisir aujourd'hui un administrateur de biens, au cas où, demain, il se retrouve incapable de les gérer.
Nous sommes de retour en studio avec nos invités. Annie Lejour, vous êtes avocate et administratrice de biens. Bonjour.
Bonjour.
Xavier Guessen, vous êtes juge de paix à Liège. Bonjour.
Bonjour Madame Kett.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me tourne vers vous Axel. Vous avez donc réalisé cette enquête pour investigation. Est-ce que ça a été difficile de trouver des témoins qui voulaient bien parler de leur situation ?
Dans le magazine Investigation, nous avons l'habitude de faire des appels à témoins. C'est très utile, ça nous permet de rencontrer beaucoup de personnes. Bon, les premières rencontres se font d'abord par téléphone. Ça n'a pas été évident. Pourquoi ? Parce que l'administration de biens, l'administration de la personne, ce sont aussi des problèmes intrafamiliaux. Et que nous avons dû, Martine Hinz et moi-même, faire un peu la part des choses entre ce qui était réellement un problème d'administration de biens ou de personnes, ou plutôt un problème de relations familiales. Et donc nous avons dû rencontrer beaucoup de personnes pour arriver à sélectionner, à faire, comme on dit dans notre jargon, un casting qui soit suffisamment vaste, suffisamment représentatif et interpellant. Parce que notre but, évidemment, c'était de trouver des personnes qui permettent aux spectateurs une forme d'identification. C'est un sujet fondamental. L'administration de biens, c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique, positif a priori. Et on voulait trouver des personnes qui puissent toucher le spectateur par leur expérience.
Annie Lejour, en tant qu'administratrice de biens, qui sont les gens que vous protégez ? Quel profil ont-ils ?
Eh bien écoutez, il n'y a plus de profil. Là, on va être d'accord, je pense, avec le juge de paix, c'est que autant avant, de manière classique, c'était une personne âgée en maison de repos, autant actuellement, les pathologies qui peuvent justifier l'administration de biens et ou de la personne sont très diverses. Et donc avec des pathologies qui sont nouvelles. Donc ça peut être évidemment quelqu'un qui fait un burn-out, ça peut être une personne âgée, mais ça peut être une personne toxicomane, alcoolique, malvoyante. Le profil, c'est bien plus diversifié sur les 10-15 dernières années qu'on ne pouvait l'imaginer en réalité.
Il n'y a pas d'âge pour être placé sous administration de biens.
Il n'y a pas d'âge et avant on disait provisoire. Et une administrée m'a dit un jour, mais il n'y a rien de provisoire dans cette histoire. Ben non, en fait, il n'y a rien de provisoire. Ça va être en place jusqu'au moment où la personne peut justifier qu'en fait sa situation médicale a changé. Ce qui n'est pas tout à fait exceptionnel parce qu'on peut imaginer une personne alcoolique qui après devient abstinente. Se marie, voilà. Enfin, ce n'est pas que théorique. Mais on ne va pas se mentir, la plupart des personnes qui vont faire l'objet de la mesure vont y rester, dans l'expérience que j'en ai, jusqu'à leur décès.
Xavier Guessen, donc vous êtes juge de paix sur Liège. C'est à vous qu'il revient de nommer l'administrateur de biens ou de décider en tout cas de placer une personne sous administration de biens. Quels sont les critères qui vous guident pour prendre ce genre de décision qui n'est pas forcément une décision facile ?
La première chose que fait le juge de paix lorsqu'on lui demande de désigner un administrateur de biens, c'est d'aller rendre visite à la personne ou de recevoir la personne à la justice de paix si elle peut se déplacer. L'administrateur peut être familial, je le rappelle.
Ça veut dire qu'on peut choisir un de ses proches ?
On doit de préférence choisir un des proches. La priorité est exprimée dans la loi. Si je ne trouve pas un administrateur familial dans l'entourage ou quelqu'un qui a les capacités pour le faire, à ce moment-là, je vais me tourner vers un administrateur professionnel, avocat, et là, je vais choisir l'âge, le type d'administrateur en fonction du profil de la personne à protéger.
Vous l'imposez, ce choix, à l'avocat ou il a le droit de dire non ?
L'avocat peut refuser. Il arrive aussi souvent que la personne à protéger ou son entourage suggère la désignation d'un avocat. Et là, il y a une discussion pour savoir est-ce que c'est un avocat qui pratique cette matière-là, qui a les compétences pour le faire. Et il arrivera que le juge de paix impose le nom d'un avocat, mais l'avocat doit évidemment accepter sa mission.
Est-ce que vous veillez dans le choix que vous allez faire, le choix de l'avocat, est-ce que vous veillez au nombre de dossiers dont est déjà en charge cet avocat ?
On peut y veiller, chaque juge de paix peut veiller à ne pas constituer des pôles énormes. Mais il n'existe pas de contrôle de l'ensemble des désignations. Chaque juge de paix désigne de son côté, il n'y a pas de cadastre des administrateurs. Donc on ne sait pas combien chaque administrateur a de dossiers. Autre précision importante, certains administrateurs ne font que ça, d'autres ont des activités différentes, plaident d'autres dossiers ou ont d'autres mandats judiciaires. Et on doit tenir compte, évidemment, de la disponibilité de l'avocat. Donc la réponse à votre question, c'est cela. Je regarde ce que fait l'avocat que je désigne. Je m'assure surtout de son sérieux, de sa diligence, de son honnêteté, bien évidemment. Et je veille à répartir les mandats sur un nombre suffisant d'avocats. Je dirais que dans ma justice de paix, pour à peu près 1500 dossiers d'administration, j'ai au moins 50 avocats que je désigne régulièrement.
Vous veillez aussi à la personnalité de l'avocat, qu'elle puisse correspondre à la personnalité de l'administré.
Exactement. Il faut, pour certains administrés, des avocats cadrants, autoritaires, qui vont pouvoir gérer une personne difficile. À l'inverse, vous avez des personnalités impressionnables qui auront besoin d'un avocat très doux, très empathique, voire maternant, de manière à ce que la relation se construise à long terme. La mesure d'administration de biens, elle est provisoire. Je le rappelle dans tous mes jugements, un administré peut toujours produire un certificat médical pour demander la fin de la mesure. Comme l'a bien dit Maître Lejour, il y a des dossiers dans lesquels on peut penser que la mesure est définitive. Je pense à une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Là, on sait bien qu'il n'y aura pas de retour en arrière, mais dans beaucoup de dossiers, notamment pour des personnes jeunes, là, on peut espérer qu'à un moment donné, la personne puisse reprendre la gestion de ses biens. C'était d'ailleurs le cas d'une des personnes administrées par Maître Lejour dans le reportage qui a été diffusé.
Exactement, on pense à Thierry Lebrun, le kinésithérapeute que vous suivez, qui a été victime d'un grave burn-out. Il a eu besoin de votre aide, de votre protection, mais les choses évoluent. Dans son cas, est-ce qu'on peut imaginer que l'administration se termine?
Ah oui, mais totalement, et on le planifie déjà. En réalité, c'est d'emblée ce dont on a discuté et on s'est tout de suite mis d'accord sur le fait qu'il y avait dans sa vie encore toute une série de points traités et mon aide n'était pas inutile. Mais ça c'est vraiment, je ne vais pas dire demain, mais on est sur la balle. Pourquoi ? Parce que c'est particulièrement le cas où c'est une personne qui a repris pied, qui retravaille. Moi, je constate tous les jours de son sérieux, de la diligence qu'il fait. Il n'y a pas de rechute, il n'y a pas de problème qui se présente. Et donc ça, il faut être assez diligent sur le fait qu'à un moment donné, il faudra vider ce point-là. Et donc, ce qui, de toute façon, ne ferme jamais la porte. Imaginons qu'on clôture la mesure dans quelques semaines et puis il a à nouveau une difficulté. Mais ce sera, à mon avis, le premier à citer mon nom pour un appel à l'aide. Mais oui, clôturer les mesures, il faut savoir le faire. Quand ce n'est plus adéquat, c'est plus adéquat.
Quelles sont les qualités, vous pensez, qui font un bon administrateur de biens ?
Eh bien écoutez, je pense qu'il en faut beaucoup. Moi, dans mon cas, mais ça c'est ma personne, je suis fort, fort empathique et à l'écoute. Diligente, parce que il n'y a pas de miracle. Quand on a plusieurs dizaines d'administrations de biens, et de la personne ou de la personne, si on agit dans plusieurs semaines, on est juste à côté de la plaque. Il faut être sur la balle, surtout. Donc là, être disponible, diligent, empathique et en même temps, je vous dirais que chaque avocat exerce à sa manière. Et c'est assez surprenant, c'est que chacun a sa méthode. Quelle est la bonne méthode? Je n'en sais rien. Moi, j'ai moi-même évolué dans mes méthodes sur les 20 ans. Vous pensez bien qu'il y a des situations que j'ai traitées il y a 20 ans, je ne les prendrai plus de la même manière. Ça, c'est l'expérience. Et la formation aussi qu'on a eue par son maître de stage. Mais je pense qu'il faut quand même beaucoup de qualité. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas une petite mesure. C'est une mesure qui est intrusive. Et il faut en face avoir du répondant.
J'aimais bien l'image du couteau suisse que vous nous aviez cité pendant notre rencontre.
Ah oui, là, des exemples, j'en ai beaucoup. Mais quand je l'explique parfois chez moi, ce que j'ai pu faire dans une journée, à trouver un chenil pour un chien, à traiter les puces du chien, à la fois faire mon travail administratif, qui est quand même conséquent. puis avoir des entretiens qui parfois sont très très sensibles, très compliqués avec des personnes qui ont des grosses pathologies parfois. Mais c'est surprenant qu'un avocat fasse tout ça, mais ça c'est le métier. Je pense que l'administration de bien de la personne, c'est particulièrement ça. Il faut accepter de mouiller son maillot. Hein. Ce n'est pas un travail de bureau. Ça, je pense que vous l'avez compris quand vous avez suivi.
Xavier Gaysen, l'administration de bien est placée comme ça quelqu'un sous tutelle. C'est quand même une décision lourde, même si c'est pour le bien de la personne. C'est une privation de liberté. On le prive de certaines de ses activités. On la prive.
C'est exact. C'est une mesure limitative de la liberté de la personne qui est placée sous protection. On le fait uniquement dans la mesure requise pour protéger la personne. Le but étant celui-là.
N'importe qui peut introduire une demande de placement sous tutelle d'un administrateur de biens.
Toute personne intéressée peut effectivement faire cette demande de mise sous protection.
Ça signifie que, par exemple, un voisin, un simple voisin, pourrait demander la mise sous protection d'une personne qui n'est pas forcément un proche.
Les demandes sont couramment faites par du personnel social qui entoure la personne à protéger, par des services d'aide familiale, par effectivement des voisins ou des amis qui s'inquiètent de la dérive d'une situation. Il n'y a pas de limitation en ce qui concerne les personnes qui peuvent demander la mesure. Maintenant, c'est au juge à apprécier si les conditions médicales sont réunies pour prendre cette mesure limitative de liberté. Et la mesure qui sera prise par le juge sera strictement limitée aux besoins. Dans le système légal, le principe reste celui de la capacité de la personne. L'exception, c'est l'incapacité. Et le juge liste dans sa décision les actes que la personne protégée ne peut plus accomplir ou ne peut plus accomplir seule.
Ça veut dire qu'on n'est pas forcément sur une tutelle totale. Quelqu'un qui sait encore gérer son budget quotidien, faire ses courses par exemple, peut continuer à le faire, mais peut-être plus à gérer son patrimoine ou son compte épargne.
C'est exactement ça. On peut limiter la mise sous protection à certains actes et dans tous les cas, l'administrateur des biens met à disposition de la personne protégée ou de son entourage, en pratique, une carte bancaire sur un compte argent de poche afin d'assurer les dépenses courantes.
Comment est-ce qu'on fait pour faire le tri dans des situations personnelles qui sont souvent compliquées? La personne qui pourrait être placée sous tutelle qui refuse, par exemple?
On examine simplement avec elle quelle est la réalité de sa situation et quelle est encore sa possibilité de gérer seule. C'est très facile à faire. Vous posez quelques questions sur quels sont les revenus, quels sont les paiements à faire régulièrement et on voit vite si la personne s'y retrouve ou si, au bout de deux, trois questions, elle jette l'éponge et on se rend compte qu'en réalité, elle ne gère plus bien. On a souvent la situation d'une personne qui dit « Oui, oui, je n'ai pas besoin d'aide, mais c'est les aides familiales qui font les paiements. » Et combien gagnez-vous? Ben, ils vous répondent en francs belges des montants aléatoires. Voilà, il faut évaluer la capacité qu'a la personne de gérer seule. Mais parfois, on refuse la mise sous protection. On se rend compte que la personne, même si elle a des limitations, est encore capable de se débrouiller seule.
Donc cette administration de biens, on l'a compris, elle peut être exercée par un professionnel, par un avocat, aussi par un membre de la famille. Axel, quand vous avez réalisé cette enquête pour investigation, vous êtes rapidement tombé sur des dysfonctionnements, sur des failles dans le système qui peuvent amener à notamment des escroqueries.
Oui, absolument. J'ai en tête le cas de cette dame qui un jour se rend compte que la maison de sa maman a été vendue, voilà, ou va être vendue, mais pour une croûte de pain. Elle n'a rien eu à dire, en fait. Et donc, fatalement, ces personnes-là nous ont touchés aussi parce que il y a des effets collatéraux quand ça se passe pas bien, sur les enfants, sur les proches. Et donc, cette dame-là se sentait complètement démunie, presque aussi prisonnière finalement que sa pauvre maman. J'ai encore un exemple toujours concernant cette personne, c'est qu'un jour elle veut simplement aller dans la maison de retraite, emmener sa maman pour aller au restaurant avec elle, ben, il fallait une autorisation. Et donc cette privation de liberté, quand on ne connaît pas ce que c'est l'administration de biens de la personne, c'est très difficile à admettre. Et donc cette personne était révoltée, elle n'était pas la seule d'ailleurs. Maria aussi, par exemple, quand elle a reçu ce document « Administration du bien », qu'est-ce que ça veut dire? Et quand elle s'est rendue compte à quel point l'administrateur était invasif, elle en était révoltée, vraiment révoltée.
Maria, elle n'avait pas été prévenue que sa maman allait être placée ou était placée sous administration de biens ?
Du tout, elle était prévenue par courrier et encore, elle n'étant pas vraiment au fait de la chose juridique, elle a dû demander l'avis au conseil de quelqu'un. En fait, c'était pas clair.
Est-ce que c'est normal, ça, que la famille ne soit pas au courant qu'un membre est placé sous tutelle ?
Ça paraît étonnant. Lorsque la requête de mise sous protection est déposée, le requérant va mentionner les personnes qui constituent l'entourage familial ou amical de la personne. Et le greffe de la justice de paix va convoquer le plus grand nombre de gens possible. Ces personnes sont convoquées par pli judiciaire. Terme technique qui veut simplement dire « envoi recommandé ». Alors, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas rechercher le recommandé. Ça peut être une première explication. Il y a aussi très souvent, il ne faut pas se cacher la réalité, des familles qui sont désunies. Et donc, parfois, la personne à protéger fait la demande elle-même. Très souvent, la personne remplit la demande elle-même et ne mentionne pas certains de ses enfants parce qu'elle ne s'entend plus avec ses enfants et veut les maintenir à l'écart. Et ça, nous n'avons pas, nous, de service de recherche généalogique pour reconstituer l'arbre généalogique de la personne et inviter les frères. Parce que qui doit-on inviter ? Les enfants, les frères et sœurs, les oncles et tantes, où s'arrêterait-on ? Et nous demandons un rapport circonstancié d'un notaire ou d'un agent immobilier sur la valeur de l'immeuble. Et nous n'autorisons pas une vente pour un prix inférieur à celle qui figure dans le rapport. Donc c'est assez encadré. Donc quand j'entends « on a vendu la maison de la personne protégée sans son avis et pour une croûte de pain », c'est anormal.
Annie Lejour, on l'entend, on l'a entendu encore dans notre reportage, il y a des administrateurs qui profitent du système, qui parfois même détournent de l'argent. Est-ce que ce sont des choses qui vous ont étonné ou qui sont connues dans la profession ?
Alors, je n'ai pas vécu dans ma vie au barreau énormément de scandales, mais quand il y en a eu, ils étaient tout à fait conséquents. Donc les sommes détournées au barreau de Charleroi, ben, je pense à deux situations hein, sur les cinq dernières années qui ont fait surface. Maintenant, y aurait-il encore qu'un seul incident de cette nature-là ? Ben, il est inacceptable. Parce que, vous savez, la réalité, c'est que moi, je vois parfois la misère sociale dans laquelle je suis amenée à me déplacer. Je vois des situations qui sont vraiment... vous savez, c'est prenant. L'idée qu'on a détournée chez ces personnes-là, ben je suis un peu sidérée, parce que là, c'est incompréhensible au niveau du minimum d'humanité qu'une personne peut avoir. Ça, je pense qu'on doit tendre dans la réflexion que l'émission a permis à balayer devant notre porte et voir, tiens, mais comment c'est possible, en fait ? Il y a une zone d'ombre. Attention, il y a là un angle mort, on doit travailler dessus.
Est-ce qu'il y a des contrôles, justement ? Est-ce que vous êtes régulièrement contrôlé ?
Alors, il y a le contrôle qui est réel, c'est-à-dire quand je rends mon rapport annuel, j'ai parfois des questions du juge de paix. Donc ça veut dire qu'on a lu mon rapport et parfois des remarques en disant « attention, vous avez laissé trop d'argent sur le compte vu ». Donc il y a une lecture avec des questions auxquelles je dois répondre et si je ne réponds pas, le juge de paix derrière moi. Donc ça marche. Mais les contrôles approfondis, c'est-à-dire vraiment où, je l'ai vécu une fois, un comptable vient au cabinet, me demande la comptabilité, on lui laisse un bureau pendant une après-midi, etc. Je n'ai vécu, moi, dans mon expérience personnelle, qu'une seule fois.
Sur plus de 20 ans.
Oui. Et c'est là que je me disais, bon, ça ne m'a pas dérangé du tout. Il faut savoir que ça avait été ordonné à la demande de la famille, mais demande soutenue par moi-même. Parce que la famille était vraiment toujours dans une sorte de méfiance. Et je me disais, au moins, ça va vider le point. Voilà, on a vidé le point comme ça. Mais une fois sur plus de 20 ans, c'est léger. Oui, c'est léger.
Xavier Guessagne, c'est vous en tant que juge de paix, alors pas vous pour tous les dossiers, mais pour ceux que vous gérez, qui êtes chargé du contrôle. Vous recevez des rapports annuels des administrateurs. Est-ce que vous avez le temps de contrôler ?
Nous avons énormément de dossiers à contrôler et nous le faisons. Nous prenons le temps nécessaire. Mais je vous ai dit, je gère à peu près 1500 dossiers. Ça fait sans doute plus de 2000 rapports par an. Ça nous oblige à une gestion efficace du temps pour ouvrir chacun des dossiers, examiner des extraits de comptes et des listings bancaires. Maintenant, le thème de l'émission était l'administration de biens un paradis pour les fraudeurs ? La réponse est non. Il faut quand même être clair là-dessus. Dans l'immense majorité des dossiers d'administration des biens, les administrateurs familiaux et professionnels sont honnêtes, rigoureux, parfois maladroit en ce qui concerne les administrateurs familiaux, mais de bonne volonté. Il faut quand même commencer par ça. Il y a des cas marginaux dans lesquels nous constatons des anomalies, que ce soit chez les administrateurs familiaux ou chez les avocats. Ce sont des cas marginaux. Maître Lejour a parlé de deux dossiers. Dans quelques dossiers avec des administrateurs familiaux, j'ai dû attirer l'attention sur le fait que certains transferts me paraissaient pas justifiés du compte de la personne protégée vers le membre de sa famille qui gérait. Il m'est arrivé de remplacer. En ce qui concerne les administrateurs professionnels, les juges de paix sont très attentifs et dès qu'il y a le moindre signal, indice de manque de sérieux ou de manque d'honnêteté, les juges de paix se donnent le mot et je pense à un cas en particulier qui est actuellement à l'instruction. Les juges de paix ont dénoncé les faits au parquet. Nous avons d'ailleurs créé à Liège un point de contact entre les juges de paix et le procureur du roi, Philippe Dulieu, afin de permettre que toutes les situations d'abus constatées par les juges de paix soient non seulement signalées au parquet, mais également poursuivies par le parquet. Quand je dis toutes les situations constatées par les juges de paix, je dois préciser ma pensée. Ce n'est pas tellement en contrôlant les rapports que nous voyons des abus. Dans la grande majorité des cas, c'est au moment où nous allons mettre une personne sous protection. On nous demande de venir parce qu'il y a eu des abus avant notre venue. Il y a eu des détournements, l'épargne a disparu, les bijoux ont disparu, il y a eu des abus de faiblesse et la mise sous protection et la solution au problème.
Là, vous voulez dire concrètement que ce sont plutôt les proches, la famille, les amis, l'entourage d'une personne qui aurait fait ses vols, fait disparaître de l'argent, et c'est là qu'on vient vers vous pour exact. Demander une administration de biens.
Exact. Les proches ou des personnes mal intentionnées qui peuvent aussi être des escrocs situés très loin. Internet fait beaucoup de tort, les placements faramineux et les histoires d'amour sur Internet permettent beaucoup de détournements au préjudice de personnes fragilisées. Et à ce moment-là, on nous demande d'intervenir pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être.
Il y a une nouvelle forme de criminalité qui vise particulièrement les seniors, le troisième âge, des personnes fragiles.
Les juges de paix constatent que très souvent, au moment de la désignation, il y a eu des faits délictueux. Il n'y a pas suffisamment de poursuites. Nous agissons auprès du parquet et du parquet général pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une véritable politique criminelle. À titre personnel, je constate que les faits sont nombreux et les condamnations sont extrêmement rares.
Ce sont des dossiers qui n'aboutissent pas.
Qui n'aboutissent pas parce qu'il n'y a pas un trouble à l'ordre public flagrant. On ne sait pas très bien si la personne concernée qui souffrait de maladie et d'Alzheimer était vraiment d'accord ou pas d'accord quand elle a envoyé 100 000 euros à telle personne. Et donc on laisse souvent tomber. Il est clair que le vieillissement de la population entraîne une augmentation de cette catégorie, fragilisée pour des raisons de fractures numériques, pour des raisons neurologiques, pour des raisons parfois simplement de possibilité de se déplacer, et cela encourage toute une série de faits répréhensibles.
Annie Lejour, ça rend du coup votre travail encore plus essentiel.
Ah oui, mais je partage totalement le point de vue du juge de paix, parce que en général, quand on arrive, le mal est fait. Et là, on arrive souvent, je ne dis pas que c'est toutes les situations, hein, il y a des familles qui ont extrêmement bien géré jusque-là, mais nombre de situations où quand j'arrive, il y a zéro sur le compte, au bout d'un an, on a mis de côté 5, 10 000 euros. Où était cet argent précédemment? Ça, c'est une réalité, c'est que souvent, et alors évidemment, avec ce côté extrêmement sensible, c'est que ça ne vient jamais de loin. Ça va être entourage familial proche ou amical proche, avec des personnes qui sont diminuées, âgées, mais pas forcément.
On va devoir conclure cette émission. Une dernière question, rapidement, concrètement, il est possible pour tout un chacun de déjà choisir la personne qui pourrait administrer ses biens dans le futur, le jour où ce serait nécessaire. Comment ça se passe ?
Oui, c'est exact. Toute personne peut faire une déclaration de préférence, aller trouver un notaire et dire quelle est la personne dont elle souhaite qu'elle soit chargée d'administrer ses biens le jour où elle ne sera plus en mesure de le faire. Et le juge de paix, au moment de la désignation, va inviter le greffe à l'informer, à vérifier s'il y a eu une déclaration de préférence.
C'est la fin de cette investigation. Merci à nos invités. Merci à Amaury Boucher pour la réalisation de cette émission. Et merci à vous qui nous écoutez.